la rétraction. Il faut savoir d'abord que ce terme est totalement inconnu dans la Bible juive. On ne nulle part ce terme mentionné et on ne le trouve donc dans aucun texte biblique.
Le mieux est... Ah ! Le mieux est... n'est pas l'ennemi du bien. Et donc on ne le trouve nulle part dans les textes bibliques, et même dans les premiers textes de la littérature rabbinique. Alors d'où vient-il ce terme « tzimtzou » ? Il vient certainement de la répétition d'une racine, « tzadil mem » avec « vav » ou « sans vav » qui désigne le jeûne ou jeûner. La « tzum » c'est jeûner, un « tzam » c'est un jeûne. Jeûner, ça veut dire, en fait, cesser de se nourrir et de boire, et donc, d'une certaine façon, se retirer du monde. C'est ce que nous faisons le jour de Yom Kippour, lorsque nous jeûnons pendant 25 heures, depuis le coucher du soleil jusqu'au lendemain, 3 étoiles dans le ciel. Et c'est donc ce qui se passe dans notre corps, dans notre âme. Nous nous retirons, en quelque sorte, du monde, pour mieux penser à nous et à notre relation avec les autres et avec Dieu, à travers le jeûne, qui est le refus, pendant cette période de 25 heures, de prendre toute nourriture et toute boisson. Et puis on retrouve dans la littérature rabbinique cette même racine, dualisée en quelque sorte, le tzamtzem, c'est donc très proche du tzimtzum, qui a plusieurs significations. Le tzamtzem, c'est compresser. C'est donc prendre un objet d'un certain volume et le faire diminuer de volume. Mais le tzamtzem, c'est aussi cacher parmi ou cacher derrière. C'est-à-dire, en quelque sorte, réduire de la vue. Et puis, une dernière signification, toujours dans la littérature rabbinique, c'est définir avec précision un objet, un acte, et ceci était demandé des témoins lorsqu'ils venaient devant le tribunal rabbinique, le Beit Din, pour témoigner. Et une des premières manifestations de ce terme tzimtzum est dans un texte tardif de la littérature rabbinique, où il est dit que la présence divine dans le Saint des Saints, en quelque sorte, se compresse, non pas donc celui, mais se compresse à l'intérieur du Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Elle était totalement dans cet espace, mais cet espace était un espace extrêmement réduit par rapport à l'ensemble du bâtiment, même si le bâtiment n'était pas grand, et encore plus par rapport à l'ensemble du monde. Et puis, peu à peu, on va voir l'émergence d'une idée à travers la réflexion d'Isaac Luria, qui a vécu de 1534 à 1572, qui est né en Palestine, puisque cela s'appelait ainsi à cette époque, d'un père ashkenaz et d'une mère séfarade. Je le dis parce que c'est un des premiers mariages mixtes de notre histoire. Qui a essayé de comprendre, ou du moins d'exprimer, une idée apparemment contradictoire. Comment se fait-il que nous définissions Dieu comme étant sans limite? Comment se fait-il que nous définissions Dieu comme étant sans substance, alors que la réalité de notre univers est un univers limité, empli de substance? Comment cela peut-il se concevoir? Alors, bien sûr, on peut suivre ce que certains philosophes disent et qui affirment, mais pas trop fort, que tout ceci, c'est l'impression que nous en avons à travers nos sensations et que donc nous ne pouvons pas savoir si véritablement cette réalité existe et si cette table est une table. Mais malgré tout, il nous semble à tous et nous semblons acquiescer à l'idée que nous sommes assis sur des chaises qui sont posées sur un plancher et nous sommes accoudés à l'étable. Et que nous sommes tous là en train de vivre un moment en commun, donc que la matière existe, que l'espace existe, Alors comment se peut-il que cette matière et cet espace puissent exister dans ce qui n'est pas matière, dans ce qui est pur esprit et qui est sans limite? Alors, Luria a dit, eh bien, dans le fond, c'est relativement simple. Je dis relativement parce qu'il est extrêmement compliqué d'essayer de s'imaginer que ce qui est sans espace puisse en créer un et que ce qui est sans matière puisse laisser un vide. Puisque l'absence de matière, c'est le vide, comment se fait-il que le vide va laisser un autre vide? Et quelquefois, il y a un professeur de théologie qui disait, quelquefois il est bon de se poser des questions et de ne pas trouver forcément les réponses. Et de se dire, nous avons posé la bonne question, mais la réponse, la bonne réponse, elle est au-delà de notre pensée. Néanmoins, Luria a parlé de ce qu'il a appelé le tzimtzum, c'est-à-dire la rétraction. Ce qui est sans matière et ce qui est sans limite, c'est rétracté pour laisser un vide, un néant, à l'intérieur duquel, parce que dans certaines traditions, il y a des forces quelquefois peut-être pas contradictoires véritablement, mais pas toujours identiques les unes aux autres, à l'intérieur même de Dieu, puisque dans notre tradition nous disons que tout vient de lui, et que Isaïe dit qu'il est le créateur de l'obscurité et donc et aussi du mal. Il y a eu donc cette rétraction de Dieu qui a fait que, à l'intérieur de son être, les forces contraires au bien ont pu, d'une certaine façon, s'exprimer. Il s'en est séparé par le tzimtzum, c'est-à-dire par cette rétraction, laissant dans ce vide quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, parce que nous ne pouvons pas imaginer non plus le vide absolu. Mais cela répondait à une question, dans le fond, puisque Dieu, tel que nous le définissons, qui est sans limite, sans matière et intemporel, est Dieu, et que nous ne sommes pas lui, il faut bien accepter qu'il y ait quelque chose à l'intérieur duquel nous sommes, et peut-être à l'intérieur duquel il n'est pas. Et dans le fond, ce tzimtzum, cette rétraction de Dieu, a laissé un espace hors de l'intemporel, hors de l'immatériel, et hors du non-espace. Et ce qui est hors de l'intemporel devient temporel, ce qui est hors de l'immatériel devient matériel, et ce qui est hors de l'infini devient un espace. Et tout dans notre monde, et nous le savons très bien, et tout dans notre environnement, est différenciation, distanciation et séparation, c'est-à-dire le contraire absolu de l'unité parfaite que Dieu est dans notre imagination, dans notre façon de l'appréhender. Peut-on aller plus loin? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les catégories que j'ai énoncées sont des catégories hors de notre entendement. Et comme ce sont des catégories hors de notre entendement, eh bien, je préfère peut-être aller d'une autre façon à travers la lecture de certains passages et de certains mots. Il est frappant de constater que le premier mot de la Torah, et vous le connaissez certainement, c'est le mot « Bereshit ». Et les rabbins ont affirmé que si le premier mot de la Torah commence par la deuxième lettre de l'alphabet et non par la première, c'est que nous vivons dans le monde de la diversité, dans le monde de la différenciation, de la séparation et de la distanciation. Il y a eu Bereshit, il y a eu un commencement. Mais s'il y a eu un commencement, on se retrouve à l'intérieur du temps. Or Dieu est hors du temps. Il a donc créé, en quelque sorte, le premier élément qui a permis à notre univers d'exister, a l'intérieur de son intemporalité, il a créé le temporel, il a créé le commencement, il a donc créé le temps qui s'écoule et que nous n'arrivons quelquefois pas à maîtriser. Cette temporalité permet également de marquer des espaces, c'est-à-dire de voir et de constater un déploiement, un développement, un dévoilement. Dans ce monde dont la première lettre est la deuxième lettre de l'alphabet bête et non pas la première lettre de l'alphabet 1, ce monde n'est plus celui de l'unité, il n'est plus celui de l'indifférenciation, ni de l'absence du changement et de l'évolution, il est celui véritablement du changement et de l'évolution, c'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a, à partir de ce moment, deux entités, en quelque sorte, si l'on peut dire. Il y a l'entité divine, et il y a l'entité de l'univers. Il y a donc ces deux entités qui sont marquées par l'existence de cette lettre Beit. Bereshit Bara. Au commencement de la création, disent la plupart des commentateurs et la plupart des traducteurs aujourd'hui, création ex nihilo. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu véritablement s'est rétracté, c'est-à-dire s'il a créé un espace de vide, eh bien tout ce qui est venu exister dans cet espace de vide est venu du néant. C'est une évidence logique. Tout ce qui est donc venu vient ex nihilo du vide, de l'inexistant. Tout ce qui existe est donc créé à partir du vide, conséquence de la concentration divine qui a créé ce vide et qui est peut-être exprimé dans les versets suivants par le mot tehom, l'abîme, sur lequel planait, dit le texte, Ruach Elohim, l'Esprit divin. Il s'était donc rétracté en créant un vide, mais en restant en quelque sorte au-dessus de celui-ci pour en assurer le développement. Et la première création, vous le savez, c'est la lumière, mais lorsqu'on lit le texte, il y a quand même dans ce texte des choses assez particulières. Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Et Elohim, et Dieu, dit yehi or, soit lumière, vayehi or, et soit lumière. Si on traduit ainsi, on comprend qu'entre l'énoncé de or, ou que lumière soit, on traduit généralement, mais je l'ai traduit dans le rythme de l'hébreu, soit lumière. Juste après, on a le vav qui est la conjonction de coordination et on a exactement les deux mêmes termes, va, yevi, or. Et quand on regarde le texte avec sa ponctuation dans la Torah, on s'aperçoit que le va, il y a un tout petit trait juste après le tatar, juste après la voyelle, comme pour indiquer qu'il doit y avoir une séparation entre ce va et ce yehi or. Alors, si on regarde le texte, on a yehi or et yehi or, c'est-à-dire simultanéité en quelque sorte de l'énoncé et de la création. Lorsque Dieu parle, cette parole elle-même est création par elle-même. La création n'est pas la conséquence de la parole, mais la parole, en quelque sorte, est création en elle-même. Il y a simultanéité et il y a liaison entre les deux. Dès l'instant où Dieu dit « soit lumière », elle est. La création est l'existence, en quelque sorte, créée par l'immatériel, c'est-à-dire par la parole. Dès cet instant, dès l'instant où la parole divine devient création elle-même, alors Dieu constate, nous dit le texte, parce qu'il faut bien parler un langage humain, Dieu constate qu'il y a séparation et Dieu sépare et différencie la lumière et l'absence de lumière. Et nous voyons dans notre monde se succéder le jour et la nuit, ou plutôt le soir et le jour, puisque dans le texte, il est dit « et ce fut soir et ce fut matin, jour 1 ». La différenciation institue la séparation, et elle aussi, cette séparation, institue le retrait. Parce que lorsque l'obscurité est, il y a retrait de lumière, et lorsque lumière est, il y a retrait d'obscurité. Donc nous vivons tous dans un monde, en quelque sorte, généré et régi par la rétraction, par le tsimtsum. Dieu parle et le monde fut. Et curieusement, c'est ainsi que le texte biblique nous dit que la création émerge d'une parole. Et ce n'est certainement pas un hasard. Pourquoi ? Parce que si nous regardons au niveau humain, que se passe-t-il quand il y a une parole ? Il y a un locuteur et il y a un auditeur. Mais lorsque le locuteur a parlé, ce qu'il a dit fait partie de son passé. Alors que lorsque l'auditeur entend, cela fait partie de son présent. C'est-à-dire qu'il y a un passage dans lequel le locuteur énonce, et pour lui la parole a disparu, alors que pour l'auditeur, la parole est reçue, elle est enregistrée, et elle devient à l'intérieur de son être, non pas un objet, non pas une réalité matérielle, mais elle fait partie de lui. Mais pour qu'il puisse y avoir cette parole énoncée et cette parole écoutée, il faut que le locuteur et l'auditeur soient séparés. Il faut en quelque sorte qu'il y ait le retrait du locuteur par rapport à l'auditeur et inversement. C'est-à-dire que la relation humaine s'établit à partir du moment où on accepte de se retirer de l'espace de l'autre et où l'autre accepte de se rétracter de l'espace de celui qu'il va écouter ou entendre. Dans le fond, notre monde entier, relationnel au niveau humain, a cette particularité d'être le monde de la rétraction. Parce que lorsqu'il n'y a pas rétraction, il y a symbiose entre l'un et l'autre, et lorsqu'il y a symbiose entre l'un et l'autre, eh bien il n'y a plus de parole, il n'y a que le silence, c'est-à-dire l'absence. La parole ne peut pas être énoncée dans un univers symbiotique où tout est entremêlé, car à ce moment-là, elle n'a plus ni sens, ni raison d'être. La parole instaure une relation qui nécessite la séparation. Et en quelque sorte, la séparation, si on retourne la phrase, invite à la parole et au dialogue. Je parle, vous entendez ce qui pour moi est déjà silencieux, et déjà du passé, et qui pour vous est en devenir. La parole, en quelque sorte, rend évidente la séparation en permettant la transmission d'un sens et l'établissement d'une relation. Nous sommes tous dans le monde de la rétraction, si nous voulons les uns et les autres pouvoir vivre ensemble de façon paisible. Au niveau humain, en quelque sorte, la séparation rend possible l'échange, alors qu'au niveau divin, la séparation rendait possible l'existence du monde. Et s'il n'y a pas de tsimtsum humain, il y a perte d'humanité. S'il n'y a pas de tsimtsum humain, il y a aussi, d'une certaine façon, exil de Dieu, parce que s'il n'y a pas de tsimtsum humain, alors l'humain veut, en quelque sorte, régner sur tout, et régnant sur tout, il va déborder de son univers propre, et il va nier par là l'existence de cette rétraction divine et nier par là aussi l'existence de celui à l'intérieur du vide duquel nous sommes. Toujours la création, mais je vais l'aborder sur un autre aspect. La création et ses conséquences. Une des conséquences de la création, c'est la semaine. Bien sûr, je ne pense pas que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures, de 60 minutes, etc. Mais le texte est quand même particulier. Le texte dit, pendant 6 jours tu travailleras, et le 7e, Shabbat. Shabbat, c'est le substantif, Shabbat, c'est le verbe. Cesser. Eh bien, dans le fond, le Shabbat est un tzimtzum temporel humain. Pendant toute la semaine, nous intervenons dans le monde. Nous essayons de le maîtriser, nous essayons de le modifier. Et le Shabbat, nous nous retirons, en quelque sorte, du monde. Nous sommes à ce moment-là d'une certaine façon à l'image divine. C'est-à-dire que nous retirons, nous permettons à un espace de temps différent d'exister, qui va nous permettre après de reprendre le cours de l'histoire arrêté pendant un jour. Nous rétractons notre temps du temps de l'action, du temps de l'intervention, du temps de la maîtrise, et quelquefois un peu du temps de l'ego. La cessation du travail, c'est notre non-intervention dans le monde, à quelque niveau que ce soit, et en quelque sorte, le Shabbat est un tzimtzum temporel. Chaque semaine, pour celui qui l'accomplit, que ce soit le samedi ou que ce soit le dimanche, chaque semaine, nous vivons un retrait. Et ce retrait est une source de renouveau, comme le retrait divin avait été une source de création. Les 6 jours et le tzimtzum temporel du Shabbat forment la semaine, et l'un ne va pas sans l'autre pour qu'il y ait cet ensemble particulier qui nous permet de vivre pleinement pendant 6 jours et dans l'absence pleinement pendant le 7e. En quelque sorte, à l'échelle temporelle de notre univers, le plein et le vide se complètent, donnant au temps sa plénitude. La plénitude, ce n'est pas tout remplir, ce n'est pas générer un monde plein. La véritable plénitude, si l'on en croit l'existence du Shabbat, c'est considérer ce qui est plein, tout en sachant qu'il y a une part, je ne dirais pas de vide parce que nous ne savons pas le créer véritablement, mais qu'il y a une part de non-plein, une part d'ouverture. Et c'est pourquoi le Shabbat est cette ouverture vers les autres, et cette ouverture vers Dieu, et cette ouverture vers le monde. Nous devons marquer ce tzimtzum temporel, hors du temps, pour savoir que le temps existe. Un espace vide. Cela s'est répété à plusieurs reprises dans l'histoire juive, si on suit le texte de la Torah. Au mont Sinaï, lors du don des 10 paroles, une montagne sépare le peuple d'Israël et Dieu. Le texte dit que le peuple d'Israël se trouve betartit ha'ar, c'est-à-dire sous ce qui est sous la montagne. Bon, bien sûr, il y a un commentaire qui dit oui, parce que Dieu avait pris la montagne, il avait mis au-dessus du peuple en lui disant: tu acceptes la Torah, je la remets à sa place, tu n'acceptes pas, je lâche tout, et ça sera ta tombe. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Si on est sous une montagne qui est au-dessus de soi, cette montagne est hors de notre espace. C'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte, comme le dit le Midrash, en sustentation au-dessus de nous. Et si elle est en sustentation au-dessus de nous, nous ne la touchons pas. De même que le texte dit, aucune personne ne montera, ni toi ni Aaron d'ailleurs, et aucun animal, tu marqueras une limite, et au-delà de cette limite, personne ne doit aller. Il doit y avoir une séparation. Mais Dieu lui-même va descendre sur elle. Mais le texte ne dit pas « va s'établir sur elle ». Il va descendre. Comme si lui aussi, si on peut s'imaginer la chose ainsi, est en sustentation au-dessus de la montagne. Il ne la touche pas. Cette montagne est en quelque sorte l'isolant entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est chacun des deux partenaires va se livrer à une rétraction, à un tzimtzum. Dieu ne va pas toucher la montagne et le peuple d'Israël ne va pas non plus pénétrer au-delà de la limite qui est la base de cette montagne, ou alors il va avoir la montagne sur lui en sustentation, comme le dit le Midrash. Dieu va donc constamment descendre sur elle, c'est-à-dire ne jamais s'établir sur elle. Le peuple va être en bas, hors d'elle. Cette montagne est la séparation qui permet à Dieu d'énoncer les 10 paroles, au peuple de l'entendre, et à chacun en quelque sorte d'être en relation, parce que l'un ne touche pas l'autre et l'autre ne touche pas l'un. Là aussi, d'une certaine façon, il y a rétraction divine, mais il y a aussi, pour que la révélation puisse avoir lieu, il y a aussi rétraction humaine. Et un rabbin contemporain dit la chose suivante: la rencontre au Mont Sinaï est une forme de tzimtzum, une concentration d'énergie, afin que ceux qui ont entendu la parole puissent la mettre en acte. Entendu la parole, et non pas touché cette parole. En quelque sorte, lors de l'énoncé de ces 10 paroles, et encore, qu'est-ce qui fut entendu par le peuple d'Israël ? Un Midrash dit ils entendirent le premier mot, un autre dit ils entendirent la première lettre, mais la première lettre des 10 paroles est un aleph, c'est-à-dire une lettre muette, c'est-à-dire que là aussi, ils entendirent tout ce qui avait été rétracté, tout ce qui avait été concentré du son, c'est-à-dire le silence. Il y a séparation et retrait avec cet espace vide, sans homme, sans femme, sans animaux et sans Dieu. Ce no man's land qui permet à Dieu de s'exprimer, au peuple d'Israël d'entendre. Et lorsque plus tard, après le veau d'or, qui est le contraire de cela, puisque le veau d'or, ce n'est pas la rétraction divine, au contraire, c'est l'imposition d'un objet pour représenter Dieu, donc c'est tout le contraire de la rétraction. Lorsque Moïse dit « Fais-moi voir ta face », Dieu lui dit « Tu ne peux pas voir ma face et vivre, cache-toi, je te mets dans ce rocher, je te couvrirai à mon passage et tu verras mes arrières », c'est-à-dire tu verras les conséquences de mon passage, mais tu ne me verras jamais. Dieu est invisible, il se rétracte constamment, et parce qu'il se rétracte constamment et que nous sommes à sa recherche, eh bien il y a un dialogue possible entre lui et nous. Un autre exemple, moins grandiose, un peu plus sombre, enfin d'une certaine façon, du moins nocturne, c'est Jacob. Vous savez, Jacob, lorsqu'il quitte la maison familiale, le soir se couche et il a un songe. Il a le songe de l'échelle. Et le texte est très très curieux. Le texte dit « L'échelle repose sur la terre ». C'est comme ça qu'on le traduit. Mais en hébreu, on dit « Mutsav Artsa ». Si on avait voulu dire qu'elle était établie sur la terre, on aurait dit Mutsav al-Haaretz ou Eretz, mais pas Artsa. Artsa donne une direction, comme si cette échelle était en quelque sorte reposée vers la terre, donc ne la touchait pas. Et son fait de cette échelle était dirigé Magia Hashamaima. Si on avait voulu dire qu'elle atteignait le ciel, on aurait dit Magia Hashamayim, Hashamaïma, encore cette fin, qui est à moitié exacte d'ailleurs, parce qu'il manque juste un petit point dans le « et », indique encore une direction. C'est-à-dire que cette échelle, elle reposait vers la terre et non pas sur la terre, et elle atteignait vers le ciel et non pas le ciel. Là encore, pour qu'il y ait relation entre Jacob qui est en train d'avoir ce songe, de dormir, mais d'avoir ce sommeil éveillé en quelque sorte, et Dieu, il doit y avoir un espace isolant en quelque sorte l'un de l'autre. Autre image donc de cette rétraction divine pour qu'il y ait révélation, dévoilement divin, il faut qu'il y ait un espace vide entre Dieu et nous. Donc, non seulement nous sommes dans le monde du Tzimtzum matériel, non seulement nous sommes dans le monde du Tzimtzum relationnel entre humains, mais nous sommes totalement immergés dans le monde du Tzimtzum de la rétraction et divine et humaine pour qu'il y ait cette relation. Et le texte dit, là aussi c'est une indication, que lorsque Dieu emplissait en quelque sorte le tabernacle dans le désert, personne n'avait le droit d'y pénétrer. Seulement quand la nuée s'élevait et se déplaçait, le grand prêtre pouvait y pénétrer ou Moïse pouvait y pénétrer. Revenons au Sinaï. Qu'avons-nous vu de Dieu? Ou qu'est-ce que nos ancêtres ont vu de Dieu? Eh bien, très certainement, ils ont vu de Dieu son absence. Et parce qu'ils ont vu de Dieu son absence, ils ont été constamment à la recherche de sa présence. Qu'avons-nous de lui pour que sa présence soit percevable? Eh bien, nous avons l'écrit, d'après nous, de sa parole. Ou plutôt l'écrit de ce que le peuple d'Israël estime avoir été révélé, ou plutôt être une réponse à sa présence à lui. Parce que Dieu est absent et que nous avons le reflet de sa parole à travers un texte, nous sommes à sa recherche. Ce texte pour nous, c'est la Torah. Et comme le dit Shmuel Tigano, la Torah formule le souvenir de cette présence et nomme l'absence dans laquelle la parole résonne. La Torah est ainsi le voile de Dieu à travers lequel sa parole s'entend. C'est-à-dire que non seulement nous sommes, nous, dans le tzimtzum matériel, si l'on peut dire, de Dieu, nous sommes dans le relationnel entre humains, du tzimtzum de chacun par rapport à l'autre, mais nous approchons en quelque sorte Dieu à travers cette absence de lui, qui est aussi d'une certaine façon sa rétraction. Alors, c'est pourquoi certains disent que accepter cette Torah, quelle que soit la façon dont nous l'approchons, l'accepter comme étant une parole qui nous enseigne, est une parole qui alimente en quelque sorte notre spiritualité, c'est accepter aussi notre tzimtzum, dans le sens que si je n'accepte pas la rétraction de ma capacité, de mon pouvoir et de mon entendement, eh bien je suis dans le monde de l'épanchement continu qui est ma perte et ma perte de substance. En quelque sorte, accepter d'avoir une parole qui pour nous révèle Dieu, c'est accepter aussi notre rétraction de la toute-puissance que nous pourrions nous accorder si nous n'avions pas cette parole qui reflète son absence et qui nous permet à nous de nous construire. Alors c'est vrai qu'il semblerait, si l'on en croit Isaac Luria et les kabbalistes qui l'ont suivi, que le tzimtzum pour Dieu c'est un retrait, mais peut-être que grâce à ce retrait, et lorsqu'il s'établit non seulement au niveau du monde matériel, mais au niveau du monde humain et au niveau du monde intellectuel et spirituel, ce tzimtzum pour l'humain est la capacité de s'ouvrir à la responsabilité créative et au dialogue avec les autres et avec Dieu.
Merci Rabbi François. C'est très complet pour un retrait, c'est très plein pour un retrait, mais il est vrai que ça touche à la fois, ce retrait de Dieu, et en même temps, nous avons besoin tous de lui et nous le cherchons, et c'est cette recherche qui nous permet, je pense, d'être, et puis ce retrait intérieur aussi. Mais je pense que là, il y aura plein de questions, parce que ça touche beaucoup de choses, à la fois la spiritualité, à la fois l'être profond, à la fois les aspects un petit peu, moi je l'ai dit à la psychanalyse ou à l'être profond, même celui peut-être qui n'a pas ce sentiment de croire à Dieu, pratique un retrait pour chercher quelque chose au fond de lui, mais en fait c'est ça qu'il cherche aussi, cette dimension intérieure très profonde de l'être. Alors, nous attendons les questions, voilà, Jean-Albert. Je vais demander 2 secondes, parce que... Non, ça va, c'est bien. C'est la longueur.
Merci beaucoup pour la clarté et la cohérence de votre intervention, de vos propos. Je vais revenir sur le site Zoom le plus accessible pour nous, celui de la dimension relationnelle. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, si on peut compléter. J'ai l'impression que cette rétractation mutuelle, donc d'une part, va permettre la rencontre, véritablement, puisque on a un entre-deux, on a une distance. Et si la rencontre peut se faire, c'est parce que cette rétraction, finalement, assure la liberté de chacun. Et c'est quand on est libre qu'on peut assurer l'alliance. On peut s'allier, renouveler l'alliance dans un contexte de liberté. Et j'ai l'impression que ce principe de rétractation est à la fois le garant de notre liberté et sera la source de cette alliance avec Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est effectivement cela. Pour qu'il y ait... Les termes sont quelquefois très particuliers. L'alliance en hébreu, c'est une brite. Et on dit, quand on scelle une alliance, en français, c'est curieux, hein, sceller une alliance, ça veut dire vraiment accoler quelque chose à autre chose pour montrer qu'il y a une alliance. En hébreu, c'est l'ichrot brite. Et l'ichrot brite, en hébreu, c'est couper une alliance. C'est-à-dire accepter que chaque membre de l'alliance, chaque partie de l'alliance, est séparé de l'autre. Et donc le terme même implique cette séparation qui est la conséquence ou la cause d'un retrait. Il est bien évident que à partir du moment où au niveau humain, au niveau relationnel, cette séparation n'existe plus, il est bien évident qu'il ne peut plus y avoir alliance parce qu'il y a imposition de soi à l'autre, et l'alliance justement permet à chacun d'aller son chemin selon ses capacités, mais dans un cheminement qui prend en compte l'existence de l'autre. L'alliance ne peut se faire que dans la séparation, c'est ce que dit l'hébreu paradoxalement. Et qui est une chose qui aujourd'hui devrait être évidente au niveau individuel comme au niveau collectif. Nous ne sommes, Dieu merci, nous ne sommes pas identiques les uns aux autres. Et cette non-identité, c'est que par là même nous sommes dans le monde de la séparation, dans le monde de la différenciation, et dans ce monde, la seule alliance qui peut être établie est une alliance, je dirais pas lointaine, mais qui consacre l'espace qui me sépare de l'autre. Et qui consacre cet espace non pas comme étant une séparation qui divise, mais autrement, mais contrairement à ça, une séparation qui permet la relation avec l'autre. Pour reprendre l'image de la parole, si j'ai une alliance avec l'autre, même si elle n'est pas formulée, je peux lui parler, il peut m'entendre, il peut me parler et je peux l'entendre. S'il n'y a pas cette alliance qui implique la séparation, qui implique un espace de vide, eh bien, je n'ai pas besoin de lui parler puisque ce que je dis, il le sait, et ce qu'il sait, ce qu'il dit, je le sais également. Donc le dialogue n'existe plus, et si le dialogue n'existe plus, alors nous sommes dans le monde, non pas du vide, mais de l'immobilité. Et l'immobilité, c'est une partie de la mort.
Dans ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on peut faire un lien avec le récit biblique de cette alliance où un animal est coupé en deux et où Dieu passe entre les deux? C'est également cette idée de séparation.
On aurait pu s'attendre à ce que l'alliance entre Dieu et Abraham soit scellée comme dans un type de sacrifice, c'est-à-dire où l'animal est immolé, mais en fait son corps reste entier, si ce n'est après l'utilisation d'une partie de son corps pour ceci ou pour cela. Mais l'alliance, elle s'appelle l'alliance entre les morceaux. Donc c'est véritablement amplifier cette réalité que, dans le fond, l'alliance relie dans la séparation ou sépare dans la relation. C'est complexe, mais c'est ainsi. Et dans notre existence, nous le vivons tout le temps. C'est quelque chose que nous ressentons intuitivement et qui là est illustré de façon très particulière avec le feu de Dieu qui passe au milieu de ces animaux coupés en deux, comme pour indiquer que c'est par cette séparation et par cette distance qui existe entre les deux que cette alliance a un sens. Et pour indiquer également que ce n'est pas, disons que l'homme ne devient pas divin, enfin, l'humain ne devient pas divin par l'alliance qu'il scelle avec Dieu, comme Dieu ne devient pas humain par l'alliance qu'il scelle avec l'humain. Il y a, dans notre tradition, cette affirmation-là également. Certains disent, par exemple, que la sainteté, c'est accepter cette séparation. La sainteté, c'est peut-être pas tout à fait cela. C'est peut-être être le plus près de ce que l'on doit être. Ça, ce serait la sainteté. Être le plus parfaitement possible ce que l'on est potentiellement. Pas totalement au niveau humain, mais presque. Enfin, accéder presque à une proximité très grande avec ça, avec ce que l'on devrait être, avec ce que l'on pourrait être, avec ce que l'on est dans la vérité. Donc la sainteté, si moi je suis moi et l'autre est l'autre, eh bien, elle implique une séparation, ou elle implique une différenciation. Peut-être, peut-être. C'est une image. Et je crois qu'il faut le laisser à peut-être à l'état d'image. Peut-être que cela avait aussi un sens. lorsque cela a été écrit, que nous avons perdu. Le feu, c'est immatériel. Et Dieu est immatériel. Et peut-être était-il marqué comme cela, comme beaucoup plus tard pour Moïse, dans ce buisson ardent qui brûle sans se consumer. On en est encore, on est là encore avec le feu. Comme dit le texte, ce sont des flammes, en quelque sorte, qui ont creusé les 10 paroles dans la pierre. Et le feu est quelque chose d'assez particulier, dans le sens que il est sans ans, il est et il est constamment, il retombe constamment dans le néant, tout en renaissant à chaque instant. C'est quand même, c'est pas pour rien que nous sommes fascinés par les feux, que ce soit dans une cheminée ou ailleurs, et que la vision de ces flammes qui vivent, qui s'éteignent, qui revivent presque instantanément, est quelque chose qui, pour notre regard, est tout à fait fascinant.
Bon, moi, je vais parler d'une chose très simple qui est toujours remise en question. Où était Dieu à Auschwitz? L'absence de Dieu à Auschwitz. Il y a eu beaucoup de livres sur ce thème et je voudrais que vous nous donniez votre opinion. Merci.
Si seulement je le pouvais. Si seulement je le pouvais. Vous savez, les humains portent une grande responsabilité dans le déroulement de l'histoire et quelquefois des faits insignifiants peuvent devenir une source à un déferlement de violence majeure. Auschwitz aurait-il pu être évité? Ou aurait-il ne pas être? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'à partir d'un certain moment, il devenait presque inéluctable, tant la folie gagnait la pensée humaine de cette époque. Dieu devait-il intervenir? Bien sûr, moi j'aurais préféré qu'il le fasse. Ça aurait sauvé 6 millions des nôtres, avec certains de ma famille, que je n'ai pas connus. Dieu doit-il intervenir partout? J'ai tendance à répondre non, même si cela me fait très mal. Alors il y a eu 6 millions de vies perdues et il y a eu des millions de vies sauvées. Et je pense que cela aussi, on doit en tenir compte. La mère de ma femme était dans le Val-de-Loire et elle avait à ce moment-là 2 enfants. Ma femme n'était pas encore née, moi non plus d'ailleurs. Ah, peut-être. En fait, c'est pas grave. Et la Wehrmacht, en se repliant, un régiment, une division, je ne sais pas, s'est arrêté dans le village où ma belle-mère était cachée. Et tous les habitants du village ont été réunis sur la place du village. Et l'officier de la Wehrmacht avait un traducteur qui était un officier allemand. Et il demande au maire du village, y a-t-il des juifs? Et donc le traducteur traduit. Alors je ne sais pas ce que le maire a répondu, mais je crois que ma belle-mère a raconté correctement l'histoire, mais elle n'était que ma belle-mère, donc elle ne l'a pas raconté en direct. Et le maire a répondu positivement, mais je ne sais pas de quelle façon il a répondu. Et le traducteur n'a pas traduit.
C'est comme ça que j'ai pu épouser ma femme quelques années plus tard. Donc c'est vrai, on peut dire où était Dieu, mais là, alors si on croit qu'il devait intervenir là-bas, on va dire il était là. Et l'était-il? Ou y a-t-il eu de la part de ce traducteur officier de la Wehrmacht un moment d'humanité qu'il n'a peut-être pas eu ailleurs? Allez savoir. Toute ma famille, ma mère, mon père, ont vécu pendant toute la guerre à Paris avec une étoile jaune. J'ai été conçu avant que Paris ne soit libéré. Comment cela se fait-il que mes parents n'aient pas été raflés alors qu'il y a eu, il y en a eu tellement par la police parisienne? Je ne sais pas. Mon beau-père était médecin, chirurgien. Il a sauvé la vie d'un commissaire de police. Il lui a enlevé un tumeur cancérigène. Cancéreuse. Pardon. Ce mot est très difficile. Et lorsque ce commissaire de police savait qu'il y avait une rafle là où mon beau-père vivait, il lui téléphonait en lui disant « Il y a un très bon film dans tel quartier. » Il voulait dire « Allez là-bas pendant 2 ou 3 jours et revenez chez vous après. » Et mon beau-père a travaillé pendant toute la guerre avec une étoile jaune à l'hôpital Rothschild de Paris qui ne soignait que des Juifs. Allez comprendre. Incompréhensible. Cette période de l'histoire occidentale ou européenne est hors des normes. Dieu devait-il intervenir? Bien sûr, cela nous aurait fait. Nous aurait soulagés. Et aurait soulagé, surtout, et aurait sauvé des millions de vies. Je ne suis pas lui, je ne sais pas.
Moi, je voulais vous remercier pour cette réponse que vous avez faite, parce que je trouve qu'elle est extrêmement courageuse. Ce sera un peu facile de tout renvoyer la responsabilité de Dieu. Moi, je crois effectivement que Dieu, il était présent au moment d'Auschwitz. Il était présent dans la pensée qui a inspiré le traducteur. Il était présent dans la pensée qui a inspiré Jeanne Brousse, ici présente. Il était présent dans la pensée des époux Trocmé, du pasteur Chapal, du prêtre Camille Follier, etc. Et puis, il était absent, non pas qu'il s'était absenté, mais que d'autres personnes s'étaient fermées à sa présence, s'étaient rendues imperméables, avaient choisi de lui fermer la porte. Et lui, il ne ferme pas. Il ne cherche pas à forcer. Dans le passage de la Bible qui est le plus important pour moi, Deutéronome 30, 15 à 19, je mets devant toi la vie et la mort, etc. Il nous propose de choisir la vie, mais aussitôt il se contracte, se retire, j'aime pas bien, parce que c'est un peu comme s'il nous abandonnait. Il se contracte pour nous permettre de choisir la vie en toute liberté, et d'exercer ce choix dans la responsabilité. Dieu ne veut pas faire de nous il ne veut pas nous réduire à l'état de marionnettes, de robots. C'est à nous de prendre des responsabilités si on veut. Et on a l'exemple ici, et c'est un honneur pour nous, de Jeanne Brousse qui a su prendre ses responsabilités. Voilà où Dieu était. Et je voulais vous remercier une fois de plus, parce que chaque fois que vous venez, vous nous régalez, parce que vous avez une connaissance vraiment lumineuse, et vous savez nous la partager avec des mots très judicieux, avec des images qui nous permettent de nous représenter ce concept qui est malheureusement assez peu connu, que personnellement j'ai eu la chance de découvrir en étudiant des ouvrages du grand rabbin Alexandre Safran et de Charles Motzik. Je suis encore en train de lire un ouvrage de Charles Motzik grâce à mon ami Samuel. Et c'est devenu pour moi un principe fondateur de ma vie. Parce que c'est là que je vois vraiment l'amour de Dieu qui se contracte tout en étant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juste au-dessus. Il ne nous abandonne pas. Il est là, il est accessible, il est disponible, mais il nous dit à vous de jouer. Merci beaucoup.
Moi, je me permets très humblement de dire que Dieu était dans des lieux où je ne l'attendais pas, mais que tout au cours de cette longue période de guerre qui a été tragique, il s'est passé des miracles sous mes yeux, bien souvent. Des gens desquels je n'attendais rien, qui se sont manifestés, dont j'aurais douté même. Et pour moi, c'était une présence, une affirmation comme Dieu nous faisant un petit clin d'œil. Il y a eu des vocations qui se sont déclarées, des gens que je croyais durs, égoïstes, et qui se sont manifestés dans des conditions de danger. Et pour moi, c'était un vrai miracle de voir les réactions de toutes ces personnes qui ont bénéficié justement de ces prises de conscience inattendues. Et très souvent, il y a eu des sauvetages qui ont été opérés. Je pense que Dieu était là aussi. Ça ne se faisait pas là où nous l'attendions, mais ça se faisait dans des endroits auxquels nous n'aurions jamais pensé. Et avec le recul, je peux l'affirmer, je peux dire que il y a eu des gens qui se sont épanouis à travers dans leur résistance à l'oppression allemande, il y a eu des prises de conscience qui n'auraient jamais pu exister sans ces tragiques événements.
Vous nous avez parlé de la puissance de la parole. La parole est création. Et il y a aussi la parole humaine et la parole de Dieu, cette simultanéité. Mais l'être humain a aussi la responsabilité de cette parole. J'ai l'impression que la parole aussi des hommes et des femmes peuvent créer un certain environnement, un certain contexte. Et tout au long de notre histoire, tous ces différents moments de déferlement de haine, à la source, c'était aussi des paroles. Et puis petit à petit, ces paroles de haine, ces paroles d'appel à la violence ont fini par se cristalliser. Donc je dirais que cette liberté est redoutable parce qu'on a cette capacité de création par notre parole. Si la parole est lumineuse, on va certainement vers une création positive. Et si on a une parole mortifère, elle finira elle aussi par germer et semer la destruction. Que pensez-vous aussi de cette part de responsabilité humaine au niveau de sa parole? Nous aussi, en tant qu'humains, j'ai l'impression qu'on a une certaine puissance par la parole.
Et d'une certaine façon, vous avez raison, il y a la même simultanéité que celle que j'ai évoquée dans Yehi Or et Vayehi Or à travers notre parole. Parce qu'il est bien évident que nous savons que la lumière va beaucoup plus vite que le son, mais la vitesse du son est déjà tellement élevée qu'il y a en quelque sorte simultanéité entre la conception de l'idée qui va être émise par la parole et la réception de cette parole et son intégration dans notre esprit. Et c'est aussi là un des effets de la parole et quelquefois un des effets pervers de la parole. Parce que nous avons parfois la faiblesse de nous laisser emporter par le son. Quelquefois on nous dit, même pour ceux qui ont une voix qui porte et qui est belle, ne prends pas plaisir au son de ta voix. Ne prends pas plaisir au son de ta voix parce que le son de ta voix va te faire oublier ce que cette voix
véhicule. Et s'il n'y a pas la maîtrise de cette voix et de ce son, alors ce son peut devenir, et cette voix peuvent devenir source de haine et de destruction. Lorsque nous ne maîtrisons pas cette voix devient mortifère. Et on le voit bien d'ailleurs dans les différents... les différentes prises de parole de certains dirigeants ou de certaines personnes, lorsque celles-ci n'arrivent plus à maîtriser ce qu'elles disent, parce qu'il y a un flot débordant, tonitruant, qui roule comme une eau qui dévale, à ce moment-là, la parole devient aussi dangereuse que tous les armements que même aujourd'hui on crée. Et quand on voit la puissance de la parole, c'est effectivement, on peut avoir un sentiment d'extrême fragilité et d'extrême faiblesse. Cette parole, en hébreu, c'est dibour. Et on dit que le mot d'avar, qui est la chose, l'objet, est de la même racine. On le dit sans être totalement sûr. C'est donc que la parole est une chose en elle-même, serait une chose en elle-même, et qu'elle a, malgré son inexistence matérielle, du moins telle que nous le voyons, parce que moi je vois l'existence matérielle de la parole à travers le petit cadran que j'ai devant moi, Mais pour nous, cette parole, elle est inexistante, matériellement parlant. Et pourtant, je l'énonce et elle vous atteint. Et c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire que de pouvoir, à travers cette parole qui est immatérielle à notre perception, sauf auditive, tout à fait extraordinaire de se dire que cette parole peut véhiculer aussi bien des mots d'amour que des mots de haine, aussi bien des mots vides de sens qu'une plénitude de sens que l'on n'arrive même pas raisonnablement ou rationnellement à déterminer. Parce que dans le fond, cette parole, elle résonne en nous. Et la résonance qu'elle crée fait que soudain, il y a des images, des idées, des réactions qu'elle suscite et qui nous étonnent, bien que cela fasse partie de nous. Alors il y a effectivement simultanéité, mais cette parole, elle nécessite elle aussi la différenciation, donc la rétraction des deux. Et c'est ce qui est beau dans le fond dans le dialogue. C'est qu'un véritable dialogue est fait simultanément de réflexion et d'écoute et d'entendement. Et chez les deux parties, pour simplifier le dialogue entre deux personnes, chez les deux parties, parce que celui qui écoute évidemment ne parle pas, mais celui qui parle pense et écoute à la fois. Et notre univers humain est d'une richesse sans commune mesure et sans limite, bien que nous ne soyons que très peu de choses.
Merci Rabbi François, c'est une magnifique leçon de vie, vraiment. Tout ce que vous nous avez dit est d'une richesse extraordinaire. Mais il y a juste deux choses que je voudrais dire, qui m'a toujours frappée. Nous sommes tous là, nous entendons les mêmes mots, nous entendons la même chose, et je pense que dans chacun de nous, il entend, il est touché par tel mot spécialement. Or, il y avait une fois, un soir, une conférence par un rabbin, je ne me rappelle plus du nom, qui a dit quelque chose qui m'a
frapper au plus fort intérieurement. Il a dit en chacun de nous, en chacun de nous, il y a une étincelle de Dieu. Et naturellement, j'ai beaucoup réfléchi, ça m'a bouleversée, et je me suis dit finalement, je pense qu'il pensait plutôt, lui, à chacun, de soigner cette étincelle. Et moi, personnellement, mais je voudrais bien avoir votre opinion, parce que vous parliez beaucoup d'absence, de silence, n'est-ce pas? Et puis, pour moi, personnellement, je veux croire comme un enfant à cette étincelle de Dieu, qu'il y en a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais que l'étincelle sera toujours plus forte parce que c'est une étincelle de Dieu.
Si Dieu, comme disent certains textes, est un feu dévorant, eh bien, cette étincelle, nous l'avons en nous, elle est enfouie, et en quelque sorte, notre devoir est de laisser la lumière qu'elle génère s'épanouir et être dévoilée. C'est curieux quand on parle de l'absence, qu'on parle en même temps d'un dévoilement, parce que cela a l'air totalement contradictoire. Mais je pense que, effectivement, notre tradition affirme que nous avons chacun en nous ce reflet divin. Alors, on l'appelle étincelle, nitzotz en hébreu. Et évidemment que notre rôle et notre devoir est de laisser cette étincelle permettre à la lumière qu'elle recèle de pouvoir illuminer notre être d'abord, et puis autour de nous. Même pour ceux qui ne sont pas croyants, savoir qu'il serait bon qu'ils sachent qu'en eux, ils ont quelque chose de particulier, que l'autre n'a pas, et inversement. Et que dans le fond, si chacun laisse sa propre lumière, qu'elle soit pour le croyant d'origine divine ou pour le non-croyant, lumière en elle-même, si nous laissons ces différentes lumières illuminer le monde, bien peut-être que celui-ci serait moins ardu et qu'à ce moment-là, on ne se poserait plus la question « Où est Dieu ?» Alors, est-ce que nous recélons en nous une part divine? Je n'oserais pas dire jusque-là. Mais dans la tendance kabbalistique moderne, on dit que par les actes que nous entreprenons et qui rentrent dans la mémoire divine, nous permettons à Dieu de pouvoir dévoiler encore plus sa présence. Parce que nous agissons sur lui, non pas parce que nous allons l'influencer, mais parce que nous permettons ainsi à sa lumière de nous éclairer et d'éclairer le monde un peu plus. Et que si nous agissons de façon contraire à cela, eh bien nous l'obscurcissons. À nous de laisser la lumière s'élever.
Rabbin Garay, deux questions. Dans l'immédiat, tout d'abord, je me pose la question de cette étincelle dont Lévinas a beaucoup parlé. Mais est-ce que Hitler, est-ce que les Hitler existent aujourd'hui? Parce que Hitler, il se reproduit dans tous les pays africains, notamment le Rwanda. Est-ce que ceux-là aussi ont une lumière? Je sais qu'en Kabbale, on dit que même un caillou a une âme. et surtout le ver de terre. Mais je passe à la deuxième question. Je voudrais ne pas laisser ce silence dans le cadre de ce que certains croient en parlant de l'absence de Dieu pendant la Shoah, le fait que notre regretté président de la communauté israélite d'Annecy, M. Robert Shlomo Moss, a entrepris un travail qui lui a pris un temps inouï pour aller dans les villages et les petites villes de Haute-Savoie et poser des questions à ceux qui se sont tus, mais qui ont sauvé, comme on appelle les Juifs. Eh bien, il a constitué une association qui existe maintenant dans le président, dont il était président, et que une élection a permis à son frère d'être élu président, Henri Moss. Il y aurait peut-être 200 familles, c'est-à-dire qu'il a cherché les anciens justes. Alors, je sais que dans cette association, il a découvert à peu près 200 familles, pas forcément ceux qui ont agi, mais leurs descendants aussi, pour tenter de créer des dossiers, donc à peu près 200 dossiers qui ont été envoyés en Israël pour leur faire obtenir la médaille des justes. Mais est-ce qu'on sait le nombre de médailles de justes? Ce qui voudrait dire que Dieu n'était pas si absent que cela. Par contre, je dirais que personnellement, je pense que ce qui est le plus grave, c'est que la Shoah n'aurait peut-être pas existé, ou alors la catastrophe aurait pu être arrêtée s'il y avait eu action des hommes et non pas absence des hommes. Absence de la responsabilité des hommes. On sait que on a essayé de sauver, de faire quelque chose, et puis les hommes ont refusé.
Certains ont refusé, d'autres ont agi. C'est le propre de notre humanité d'être placé devant le choix de la mort et de la vie, de choisir la vie, et il faut continuer le texte pour vivre. C'est pas simplement choisir la vie, mais choisir la vie pour vivre, c'est-à-dire pour faire éclore cette vie, même au-delà de nous. Alors, il y a de nombreux hommes et également de femmes dont le cœur est alourdi. Lorsque le texte biblique nous parle de Pharaon, il dit que, non pas il a le cœur dur, mais il a le cœur alourdi. Le respect vient exactement du même mot, hein. Kavod et Kaved. Kaved c'est lourd et Kavod c'est l'honneur que l'on doit aux autres. C'est-à-dire leur donner toute leur densité. Mais quelquefois, le cœur s'alourdit et devient une pierre. C'est aussi une réalité humaine. Et puis, il y a des gens qui, pour des raisons quelquefois qu'ils ne maîtrisent pas, décide de passer vers ceux dont le cœur est léger, en quelque sorte. Si je fais simplement, le cœur n'est pas léger, mais le cœur est le cœur. Et il y avait un livre, je crois que c'est de Marek Alter, il y a une quinzaine d'années. Non. Il a été interviewé les personnes qui ont sauvé des Juifs. Les Juifs. Et il leur demande, mais pourquoi comment se fait-il que vous ayez agi ainsi au péril de votre vie? Et la majorité des réponses, la majorité des personnes ne trouvent pas de réponse, parce que pour elles, c'était naturel d'agir ainsi. C'est-à-dire ils ont été en quelque sorte poussés par, alors, une lumière interne, par un élan du cœur, par simplement leur humanité, Et d'autres ont oublié qu'ils étaient des humains. Vendredi soir, à la synagogue, j'ai fait un sermon qui n'a pas plu à tout le monde, d'ailleurs, mais ça, c'est pas grave, en disant que suite à Ben Laden, j'ai pas parlé de pourquoi sa mort, comment sa mort, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était injuste. Mais ce qui m'avait frappé, c'était la liesse des foules. Et je leur ai dit, je crains la foule. Et cette liesse, elle est malsaine. Parce que cette liesse humaine qui soude les gens les uns aux autres, leur font oublier leur humanité, leur individualité, et en agissant comme ça, comme un troupeau grégaire, ils retombent presque au niveau de celui et de ceux qui ont été tués et qui étaient des meurtriers. Et que si véritablement on veut rester des humains, eh bien on ne doit pas se réjouir ainsi. Le texte dit « ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi », mais il y a d'autres textes qui disent le contraire. Donc on ne va pas rentrer... Peut-être je vais finir là-dessus parce que c'est un clin d'œil. Il y a un Midrash qui raconte que lorsque Haman, c'est l'histoire d'Esther, hein, lorsque Haman est venu chercher Mardoché sur l'ordre du roi pour le faire monter sur le cheval du roi, habillé des habits du roi, etc. Mardoché, qui venait de jeûner 3 jours, dit le texte, était faible, alors il a demandé à Haman de s'accroupir et puis il s'est servi de Haman comme de marchepied. Et au moment où le pied allait, il allait lever le pied en quelque sorte, il lui a donné un coup de pied à la tête. Et Haman lui a dit, mais il n'est-il pas digne, tu ne te réjouiras pas de la chute de ton ennemi. Et pour vous dire que quelquefois les commentateurs sont aussi critiquables que les autres, Mardoché lui a répondu, oui, la chute de mon ennemi de chez moi. Par contre, le texte dit, lorsque l'âme de ton ennemi chemine à côté de l'âme de ton ami, et que les deux croulent sous ce qu'ils ont sur le dos, et que la charge qu'ils ont sur le dos aux deux âmes tombe, tu dois aller d'abord secourir là ton ennemi, et après ton ami, parce que c'est comme ça que tu maîtriseras ton impulsion négative. C'est pas facile.
Merci Rabbi François. J'ai entendu que vous disiez « c'est ainsi que je vais finir la soirée, c'est cela ?» Oui, on aurait envie encore, nous, peut-être, mais on va jusqu'à demain matin. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir se retirer. Mais je pense que nous serons... plein de ce que vous nous avez dit ce soir, instruit, comme toujours lorsque vous venez, c'est une grande leçon de vie, c'est vraiment ce seul terme pour moi qui représente tout ce qui s'est dit ce soir, et de continuer à œuvrer effectivement dans ce retrait, cette plénitude, laisser la place à l'autre, puis pouvoir revenir bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup. Excellent voyage. Bonjour à Israël. Jean-Marc va aller raccompagner Rabbi François. Si, si, mais au moins jusqu'à la porte, quand même.
Une excellente soirée, un bel été, avec quand même un peu de temps.